le magazine des Nations Unies.
La RDC placée à la 175e position sur l'indice du développement humain 2020. C'est ce qui ressort du rapport présenté jeudi par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce rapport met par ailleurs à nu les pressions de l'homme sur la planète. L'économiste principal du PNUD RDC Burundi nous en dira davantage. Taïb Diallo est l'invité des magazines des Nations Unies. Bintou Keïta dénonce une fois de plus le discours incitant à la haine et à la violence distillé dans les réseaux sociaux en RDC. La chef de la MONUSCO, vous allez l'entendre, l'a déclaré lors de la journée des solidarités et de paix organisée par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents. Et puis, ces cris d'alarme de la société civile de Djougou en Ituri. Une centaine d'enfants souffrent de la malnutrition aiguë dans ces territoires en conflit. La société civile plaide pour une intervention urgente du gouvernement et des humanitaires afin de sauver la vie de ces êtres vulnérables. Les détails dans ces magazines. Enfin, la patridie, le concept est en vogue en ce moment où l'on parle de plus en plus de la loi sur la nationalité en RDC. Le coordonnateur du mécanisme national de la CRGL décortique pour vous ces concepts et c'est en décryptage. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Capi, bonjour et bienvenue au magazine des Nations Unies. Où l'homme a le pouvoir d'influencer et de sauver la planète, où il pourra sombrer avec elle. C'est en substance la conclusion du rapport sur le développement humain 2020. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, l'a présenté jeudi au cours d'une cérémonie à Kinshasa en présence du vice-ministre du Plan, des représentants des agences du système des Nations Unies et d'autres personnalités. Ce rapport classe la RDC à la 175e place sur 189 pays à l'indice des développements humains, soit une progression de 2% par rapport au rapport de 2019. Les grandes lignes de ce rapport dans ces reportages rendus par Lomombe Didier Dadi.
Ce rapport est intitulé « La prochaine frontière des points le développement humain et l'anthropocène ». Il note les pressions que l'homme exerce sur la planète ces 300 dernières années. Des pressions qui, selon le PNUD, ont eu un impact sur les écosystèmes utiles à la vie humaine sur Terre. Il incombe donc à l'homme de modifier le cours des événements. Monsieur Taïb Diallo, économiste principal au PNUD de RDC Burundi.
Est-ce qu'il n'est pas possible de jouer sur le pouvoir de l'homme pour l'amener à adopter un comportement qui soit compatible avec l'équilibre des écosystèmes pour que
Ces rapports montrent également que les actions conjuguées de l'homme sur la biodiversité et les ressources naturelles seraient à l'origine du dérèglement climatique, de la pollution de l'air et de l'eau et de la dégradation de la terre. C'est pourquoi les représentants résidents du PNUD en RDC, Dominique Sam, demandent à tous les acteurs au développement d'agir vite pour sauver la planète.
Il n'est pas tard pour sauver notre planète. Donc, il nous faut agir sans tarder avec audace pour tracer la nouvelle voie et la prochaine frontière de développement humain durable.
Représentant le gouvernement à cette cérémonie, le vice-ministre du Plan, Crispin Badou-Panzou, a pris acte du rapport du PNUD. Il faut noter que, selon ces rapports, la RDC s'est positionnée en 2020 à la 175e place sur 189 pays. Son indice de développement humain n'a progressé que de 2% par rapport à l'année précédente.
L'économiste principal du PNUD RDC Burundi, M. Tabib Diallo, sera notre invité dans quelques instants. La chef de la MONUSCO plaide pour que les Congolais mettent fin à travers les réseaux sociaux aux discours de haine, d'incitation à la violence, aux insultes et au manque de respect. Bintou Keïta a fait cette déclaration lundi dernier à Kinshasa à la journée des solidarités et des paix organisée par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents. Occasion pour la chef de la MONUSCO de demander aux Congolais de doubler des efforts pour accompagner le CULPAC et toutes les autres institutions qui œuvrent pour la paix. Les propos de Bintou Keïta ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Ce qui se passe dans les esprits, dans le cœur, c'est ce qui amène à la compassion. Et la compassion va aussi avec la communion. Et moi, dans le mot communion, je vois union. Et je pense que ceux et celles qui sont ici aujourd'hui accompagnant ceux qui sont les récipiendaires de ce prix, c'est essentiellement pour exprimer une solidarité agissante. Et dans cette solidarité agissante, il y a la MONUSCO. Je voulais aussi passer un message de ne pas réduire le travail de la MONUSCO à seulement les opérations. C'est plus que cela. Et j'aimerais faire un plaidoyer. Les discours de haine, les discours que je vois sur les réseaux sociaux, les insultes que je vois sur les réseaux sociaux. Pour un oui, pour un non, s'il vous plaît. Devant le Seigneur, ce qu'on nous demande, c'est de demander qu'on nous pardonne nos péchés, pardonner nos offenses. Et je pense que chaque jour, si celui qui ou celle qui utilise les réseaux sociaux pour répandre la haine, le manque de respect, l'injustice, inciter à la violence, je pense que si on dit que nous sommes tous des enfants de Dieu, alors chaque soir, nous devons faire notre mea culpa et dire en quoi nous avons contribué à emmener des vibrations de lumière et de paix dans le monde.
De la paix, passons à la situation des droits de l'homme. En RDC, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté durant le mois de juillet 2021 492 violations des droits de l'homme sur tous les territoires de la République démocratique du Congo, ce qui indique une diminution de 21% par rapport au mois de juin où 624 violations ont été relevées. D'autres détails avec vous, Noëlla Luzitu Kabambi.
Le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme précise que les agents de l'État sont responsables de 43% des violations des droits de l'homme documentées en juillet 2021, soit 244 violations. Ce nombre reste tout de même stable par rapport aux 256 violations enregistrées au mois de juin. Du côté des groupes armés, renseigne le rapport, ils ont été responsables de 50% du nombre total de violations enregistrées sur l'ensemble du territoire, soit une diminution de près de 32% par rapport au mois de juin. Les combattants de divers groupes Mai Mai, notamment UPLC, Malaika, Zelambouma, Apanapale, FPPAP et Percy, ont commis le plus grand nombre de violations au cours du mois dernier. Notez que selon ce rapport, environ 89,4% des violations documentées en juillet 2021 ont été commises dans les provinces affectées par les conflits en RDC. Il s'agit du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu et du Tanganyika. Dans les provinces non affectées par les conflits, renseigne le rapport, 51 violations de droits de l'homme ont été documentées en juillet 2021. La totalité de ces violations est attribuable à des agents de l'État, dont des policiers, des militaires, des FARDC et l'ANR.
Une situation assez alarmante dans le territoire de Djougou. Là, nous sommes dans la province de l'Ituri. Une centaine d'enfants souffrent de la malnutrition aiguë dans les sites des déplacés des Roé. C'est le constat d'une équipe de la société civile locale. C'était lors d'une rencontre d'évaluation de besoins de ces familles qui ont fui les atrocités de la Codeco dans la région. Selon cette structure, ces vulnérables, dépourvus de tout, n'ont pas accès aux soins médicaux, ce qui est un sérieux problème pour les femmes enceintes. La société civile appelle à une intervention urgente du gouvernement et des humanitaires pour éviter les pires. N'est-ce pas, Martial Kiza Biamungu?
La plupart de ces personnes sont des femmes et des enfants. Selon la société civile locale qui a échangé avec les comités de ces déplacés, les conditions de vie de ces familles en détresse sont déplorables. Suite à une mauvaise alimentation, des centaines d'enfants souffrent de la malnutrition. Des femmes sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour la consultation prénatale avec tous les risques liés à la présence de miliciens de la Codeco en errance dans la région. Charité Banza, président de la société civile de
le niveau de la vie de la population déplacée, ça ne vaut pas. Ces enfants qui sont malnutris, il a fallu maintenant quelqu'un pour la prise en charge.
Les médecins chefs des zones de santé de Drodro, le docteur Jean-Claude Douchi, demandent aux enfants malnutris et aux femmes enceintes de se diriger dans des structures proches où leur prise en charge sera assurée.
Les femmes enceintes, nous avons une aire de santé qui est à 2 km de là. Il y a celles qui sont dans les besoins, celles se rendre dans ce centre de santé de Bloukwa État.
Notons que le site de Ro, les plus grands dans la région, est composé à ce jour d'environ 27 000 personnes déplacées venues de plusieurs localités de la région. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'apatridie, le concept est en vogue. Il a été évoqué abondamment lors de l'atelier d'information et de renforcement des capacités sur la mise en œuvre des engagements pris par la RDC pour l'éradication de ces phénomènes. Atelier organisé la semaine dernière à Kinshasa par le mécanisme national de la CIRGL avec l'appui du ACR. Son coordonnateur, le professeur Kakese Vinalou, décortique pour vous ses concepts, ses implications ainsi que les mécanismes institutionnels pour la prise en charge des apatrides en RDC. Kakese Vinalou, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister à un atelier sur l'information et le renforcement des capacités sur l'apatridie. D'emblée, je voudrais vous demander ce que c'est l'apatridie pour nos auditeurs.
L'apatridie, c'est l'ensemble de personnes qui se retrouvent dans un pays où ils ne sont pas originaires, soit à la guerre, fuit la guerre, soit les parents sont arrivés là-bas mais qui n'étaient pas de la nationalité de ce pays. Ils se retrouvent dans un pays qui n'est pas le sien et ils vivent là-bas sans identité, sans nationalité, sans terre. C'est un apatride parce qu'il n'a pas une référence. Oui, il n'a pas d'identité, personne ne peut témoigner de lui que je l'ai vu naître. Mais il est venu là-bas parce que la guerre l'a fait, ou bien une catastrophe naturelle, les gens fouillent. Arrivés là-bas, ils n'ont plus la capacité de rentrer. Il devient alors, après quelques années, apatride.
Il est ressorti dans l'atelier à ce jour que la RDC ne connaît pas le nombre des cas d'apatrides dans son territoire. Et cela relève aussi d'un problème de sécurité nationale. D'autant plus que nous avons 9 voisins tout autour de nous. Et que faire pour relever ces défis? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir le nombre des cas d'apatrides nécessaires ici en République démocratique du Congo?
Vous savez, nous avons 3 catégories de gens qui ont quitté leur territoire pour aller ailleurs. Vous avez les réfugiés. Les réfugiés ont une identité, c'est connu. Un réfugié, ça veut dire qu'il a fui son pays. Pour des raisons politiques, économiques ou sociales, il est allé s'installer dans un autre pays. Vous avez ce qu'on appelle les déplacés internes. C'est quelqu'un qui quitte son territoire, il va dans un autre territoire, mais il est dans le même pays. Mais ça peut arriver qu'il quitte son pays, son territoire pour aller dans un autre pays, mais à la suite d'une guerre, à la suite d'une catastrophe naturelle. Son problème, c'est qu'il va rentrer. On appelle ça déplacé. Mais il y a des apatrides. Un réfugié est reconnu qu'il est sujet de tel pays. Un déplacé, on sait qu'il s'est déplacé de tel coin à un autre. Mais un apatride, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas l'origine. Il a traversé parfois 2 ou 3 pays, il se retrouve comme on avait à un moment donné ici des Éthiopiens ou des Somaliens. On voit des enfants somaliens circuler ici. Vous ne savez pas, ils viennent d'où? Ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont aucune référence et il est apatride.
Comment arriver à les identifier alors?
Voilà. C'est là que l'autorité politique ou administrative peut prendre son courage, les appeler, ou aller vers eux, là où ils logent, pour les identifier d'abord. Vous venez d'où? Vous vous appelez comment? Qu'est-ce qui vous a fait venir? Ainsi de suite. Deuxièmement, il faut savoir leur désir. Pourquoi se retrouvent-ils là-bas? Ils veulent quoi? Ils peuvent vous dire non, moi chez nous ne nous intéresse plus, ou moi je cherche autre chose, ou moi je préfère m'installer ici. Mais quand il a quitté son pays pour venir, il est venu main vide. Il n'a aucun document de référence. Alors, on se retrouve avec les catégories des gens comme ça, qui à un moment donné, vous ne savez pas les identifier. Il est venu ici, il s'installe, et tout de suite à la guerre. À un moment donné, c'est vous qui devez l'approcher pour lui dire, bon, maintenant, nous faisons comment avec vous? Votre nom, c'est tel, vous venez de tel pays, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelle identité? L'identité des réfugiés? Mais alors, vous serez quel type de réfugié? Ou l'identité d'un déplacé? Parce qu'un déplacé a toujours l'intention de rentrer chez lui. Mais si vous êtes ici comme un apatride, on doit aussi vous identifier.
On sait que la RDC a souscrit aux 11 engagements du sommet de Brazzaville.
Oui,
le sommet des chefs d'État. Parmi ces engagements, il y a l'enregistrement de l'état civil, il y a aussi la délivrance des documents d'identité.
Voilà.
Mais ici aussi, comme vous l'avez dit, il n'y a aucun effort qui est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'arriver à résoudre ce problème?
Nous devons d'abord trouver quelle est l'instance qui peut s'occuper des apatrides. Pour les réfugiés, nous savons que c'est le ministère de l'Intérieur. Pour les déplacés internes, on sait que c'est l'autorité politico-administrative, soit de localité, soit de collectivité, soit de groupement, qui identifie. Mais pour les apatrides, quelle est l'instance qui s'occupe d'eux?
Mais l'État congolais doit savoir comment il doit faire.
Mais nous devons savoir c'est quel ministère qui doit s'occuper des apatrides. Le ministère de l'Intérieur, comme il fait pour les réfugiés, ou pas? Nous n'avons qu'une législation à ce sujet-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, après les avoir identifiés, quand nous trouvons que c'est tel ministère qui doit s'en occuper, c'est ce ministère-là qui s'occupe maintenant de leur prise en charge.
Professeur Takeshi Vinalou, je vous remercie.
Merci beaucoup, mon ami.
La page de nouvelles nous conduit dans le Tanganyika. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme était en début de cette semaine en visite de travail à Kalemi. Objectif, sensibiliser les autorités provinciales et gouvernementales, la société civile ainsi que les leaders communautaires sur le discours de haine et la justice transitionnelle. Abdoul Aziz Choy a rencontré la présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Madame Virginie Nkulu Nembar a renouvelé son engagement à accompagner la MONUSCO dans sa lutte contre le discours des haines. Restons encore dans le Tanganyika où l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a dénombré un peu plus de 261 000 personnes déplacées à l'issue d'une évaluation qui s'est déroulée du 6 avril au 12 mai 2021 dans toute la province et ce, dans le cadre du programme de suivi des déplacements de cette agence. Ce programme a pour objectif de fournir des informations concernant le mouvement des personnes déplacées et retourner dans la région afin d'améliorer la compréhension des dynamiques de déplacement forcé et la mise en place des réponses humanitaires appropriées. Enfin, la MONUSCO à travers sa section conduite et discipline a assisté mardi à Goma dans les quartiers Bujovu à Karisimbi, une cinquantaine de personnes exposées aux abus et exploitations sexuelles commis par le personnel des Nations Unies. Les bénéficiaires ont appris pendant 6 mois des métiers comme la couture, la pâtisserie ou la coiffure. Et ce, à travers un projet exécuté par l'ONG Saman Yamazingira.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous l'avons annoncé, l'économiste principal du PNUD RDC Burundi est notre invité. Le PNUD a procédé jeudi au lancement du rapport Développement humain 2020. Monsieur Taïb Diallo fait l'économie de ces rapports, mais partage également les craintes sur le risque d'une hécatombe planétaire à cause du comportement de l'homme et souligne en même temps le rôle important que doit jouer la RDC dans le règlement climatique mondial et des écosystèmes. Suivez notre entretien.
Monsieur Taïb Diallo, bonjour.
Bonjour. Monsieur le journaliste.
Oui, nous venons d'assister à la présentation du rapport sur le développement humain de 2020. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce rapport? Parce que vous en étiez le présentateur.
L'édition 2020 du rapport mondial sur le développement humain, qui est la 30e édition du rapport depuis qu'il a commencé à être produit par le PNUD en 1990. Traite de ce thème relatif à la problématique générale de l'environnement, de la conservation de la biodiversité et des possibilités de survie de l'humanité. Son thème est intitulé comme il suit, l'Anthropocène, la prochaine frontière, développement humain et l'Anthropocène. L'Anthropocène correspond, d'après les scientifiques, à cette ère géologique qui suit à la révolution industrielle, qui date d'il y a 300 ans, et au cours de laquelle l'action de l'homme sur la planète, sur l'équilibre écologique de la planète, devrais-je dire, est analysée comme étant d'une emprise somme toute négative, et ceci à cause d'un certain nombre de comportements de production et de consommation que les habitants de la Terre ont. Et le rapport pose la question implicite de savoir est-ce qu'il n'est pas possible de jouer sur le pouvoir de l'homme à transformer négativement l'équilibre de la planète pour l'amener à pouvoir adopter un comportement qui soit compatible avec l'équilibre des écosystèmes. Pour que, effectivement, pendant qu'il satisfait ses obligations de survie, il veille également, l'homme veille également à la protection de l'environnement pour pouvoir permettre à l'humanité de survivre afin que les générations futures ne souffrent pas de l'action et de l'emprise des générations actuelles sur la biodiversité, sur l'équilibre environnemental de la planète.
On a eu l'impression, quand vous présentiez ces rapports, qu'il y a une crainte. Il faut craindre que l'humanité et même la planète puissent disparaître à cause des changements climatiques et du comportement de l'homme. Est-ce que vous partagez cette crainte aussi avec certains spécialistes?
Oui, effectivement, c'est une question importante. Et je crois qu'en un mot comme en mille, je peux tout de suite vous dire que je partage les craintes exprimées dans ce rapport. Vu les conséquences de l'action de l'homme depuis 300 ans, que l'humanité était peuplée en 1789 d'environ 1 milliard, 300 ans après, on est 7 milliards, 7,5 milliards, et les projections font état d'un chiffre de 11 milliards d'habitants sur la planète à l'horizon 2050. De là à dire que si nous continuons à nous comporter comme on l'a fait pendant ces 300 dernières années, dans les 300 prochaines années, si on continue à avoir le même comportement vis-à-vis de la nature, et je partage l'idée du rapport, sa conclusion, que l'humanité court à sa propre perte. À quoi bon? S'il est possible d'interpeller la conscience des dirigeants, des décideurs de ce monde, afin qu'ils puissent impulser des dynamiques transformationnelles dans les comportements de production. Parce que jusque-là, le rapport dit effectivement que les pays développés ont eu recours à des techniques intensives en matière d'agriculture pour nourrir la planète, pendant que les pays sous-développés utilisent des méthodes de production qui font référence à des exploitations extensives, donc destructrices de forêts. Alors, le rapport a bien raison d'attirer l'attention sur le comportement de production, mais aussi le comportement de consommation. Est-ce que nous avons besoin fondamentalement de tout ce que nous produisons en termes de consommation? La sonnette d'alarme qui est tirée par ce rapport sur la nécessité pour les décideurs d'impulser des dynamiques de changement, de comportement, de production, tout comme de consommation, pour que nous puissions léguer aux générations futures une planète qui soit telle que celle qu'on nous a légué il y a 300 ans.
Oui, pour terminer, Monsieur Diallo, ce rapport fait allusion aussi à la situation de la République démocratique du Congo par rapport justement à l'écosystème et aussi au changement climatique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir?
Je ne vais pas vous apprendre que la République démocratique est l'un des poumons de la planète avec la forêt amazonienne. Donc, la République démocratique du Congo joue un rôle très important dans l'équilibre de l'écosystème global de la planète. Et nous avons vu qu'avec le dérèglement climatique, il y a un certain nombre de desiderata en termes de comportement. Et je vais vous dire que tout ce qui touche la République démocratique du Congo va, de ce point de vue, toucher la planète entière. Par conséquent, je suis d'avis que la République démocratique du Congo a un rôle extrêmement important à jouer dans l'histoire de l'humanité, surtout dans l'histoire de la conservation de la biodiversité. Et je crois que, tel qu'on a entendu aujourd'hui dans les allocutions qui se sont succédées, le gouvernement est suffisamment bien informé et conscient de ce rôle historiquement important que la République démocratique du Congo est capable de jouer dans la conservation de la biodiversité mondiale. 60% du bassin du Congo est ici. Je crois que donc on peut espérer que effectivement, d'après ce que l'on a entendu, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires, va tirer pour pouvoir. Effectivement, et je l'ai dit dans ma présentation, il y a de bonnes nouvelles. La République démocratique du Congo dispose d'un certain nombre de codes forestiers, sur les hydrocarbures, donc qui doivent régenter le fonctionnement et le
comportement. Sur le plan minier, bien entendu.
Sur le plan minier, hein, et qui doivent régenter le fonctionnement de ces secteurs, qui sont des secteurs à travers lesquels, bien sûr, l'équilibre écologique de la planète est menacé.
Oui, monsieur Diallo, moi je vous remercie.
Merci beaucoup, Radio Okapi.
La MONUSCO a procédé mercredi à la remise du bâtiment construit à la Commission nationale des droits de l'homme à Kalemi, dans la province du Tanganyika. La réalisation de l'ouvrage a coûté 49 000 dollars américains avec l'objectif de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans cette province. L'ONG locale ECRIC a exécuté les travaux de construction. L'inauguration de ces bâtiments est intervenue au moment où le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme effectuait une visite de travail à Kalemi. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités provinciales. François-Xavier Mibé.
Le bâtiment est un ouvrage doté de trois bureaux, de deux latrines internes et externes et d'une grande salle de conférence. Le bâtiment dispose aussi d'un salon et des mobiliers nécessaires pour le fonctionnement. Le tout pour un coût de 49 000 dollars américains. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, Abdul Aziz Tioy.
Ensemble, il nous faut mutualiser nos efforts pour faire de cette commission provinciale une véritable plaque tournante de l'action en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans la province du Tanganyika.
La construction de l'ouvrage bénéficie d'un appui de la MONUSCO en partenariat avec les autorités provinciales. Le ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kamona.
Nous demandons de continuer à finaliser ces projets prévus dans d'autres domaines avant la fermeture de ce bureau dans la province du Tanganyika.
La Commission nationale des droits de l'homme est une institution étatique d'appui à la démocratie, un objectif que vise son président Mwamba Mushikonke Mwamus.
Les bâtiments contribuèrent au renforcement du développement institutionnel de la CNDH. Pour l'avènement de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
Kalemi, François Diabé Mibé, Radio Capi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Suivez d'abord cette question.
Par rapport au retrait progressif de la MONUSCO, alors, en vous écoutant parler, vous avez dit que la MONUSCO est en train de s'arranger afin que la RDC n'ait plus jamais besoin de la communauté internationale. Alors, je voudrais savoir quelles sont les actions qui sont prévues pour empêcher la RDC d'avoir, même dans un rêve, le souci de la communauté, soit de l'appui de la communauté internationale.
Et puis, c'était réponse du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman.
Bon, ne plus avoir besoin de la communauté internationale, c'est peut-être aller un peu loin, mais en tout cas, ne plus avoir besoin d'une force militaire ou d'une force policière étrangère pour garantir la sécurité et la protection des populations civiles. Donc évidemment, nous avons, comme vous le savez, fermé plusieurs bureaux depuis 2 ans. Nous ne sommes maintenant plus présents que dans 4 provinces frontalières. Nous avons quitté le Kasaï officiellement depuis le 30 juin, le Chikapa et Kananga. Et donc le critère, si vous voulez, qui s'applique, c'est que ça ne veut pas dire que tout est réglé dans les autres provinces. Ça veut simplement dire que nous estimons que nous sommes arrivés à un niveau de menace sur les populations civiles ou à un niveau de menace potentielle sur les populations civiles qui est gérable par les forces de sécurité nationales.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Deux journées sont en vue en ces débuts de mois de septembre dans les annales des Nations Unies. Notez dans vos agendas que le 5 septembre prochain, ce sera la journée internationale de la charité et le 7 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation. Jean-Désiré Kanyama, François-Xavier Mibé et Martial Kiziamungu ont participé à cette émission que moi, Jean-Pierre Elali Koko, j'ai eu l'honneur de coordonner et de vous présenter. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. Elle vous fixe rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de MAGUEN. Vous pouvez également aller sur le site de Radio Capi www.radiokapi.net pour réécouter cette émission. D'ici là, bonne écoute des programmes de Radio Kapi, la fréquence de la paix.